Moi, j'ai vécu pendant 3 ans à la rue. Vous êtes 80% du temps assis par terre. Donc vous êtes petit par rapport aux gens qui passent à côté de vous. Le 22 septembre 2019, à 10h36, ma nouvelle vie commençait.
Lui, c'est Fred, un ancien SDF qui vient de passer 3 ans dans la rue. Et pourtant, il dit avoir réussi sa vie. C'est un témoignage bouleversant que je vous propose de découvrir sur le podcast Les Lueurs, disponible sur toutes les applications d'écoute et sur YouTube. A tout de suite.
Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Le fétu de paille, première partie. Ce jour-là, vers 4 heures, comme le soir approchait, Maître Goussot s'en revint de la chasse avec ses 4 fils. C'étaient de rudes hommes tous les 5, hauts sur jambes, le torse puissant, le visage tanné par le soleil et par le grand air. Et tous les 5 exhibaient, plantés sur une encolure énorme, la même petite tête au front bas, aux lèvres minces, au nez recourbé comme un bec d'oiseau, à l'expression dure et peu sympathique. On les craignait autour d'eux. Ils étaient aproguins, retors et d'assez mauvaise foi. Arrivé devant le vieux rempart qui entoure le domaine des Berville, Maître Goussot ouvrit une porte étroite et massive dont il remit, lorsque ses fils eurent passé, la lourde clé dans sa poche. Il marcha derrière eux, le long du chemin qui traverse les vergers. De place en place, il y avait de grands arbres dépouillés par l'automne et des groupes de sapins, vestiges de l'ancien parc où s'étend aujourd'hui la ferme de Maître Goussot. Un des fils prononça « Pourvu que la mère ait allumé quelques bûches !»«
Sûrement !» dit le père. « Tiens, il y a même de la fumée !»
On voyait, au bout d'une pelouse, les communs et le logis principal, et par-dessus, l'église du village dont le clocher semblait trouer les nuages qui traînaient au ciel.
« Les fusils sont déchargés ?» demanda Maître Goussot.
« Pas le mien !» dit l'aîné. J'y avais glissé une balle pour casser la tête d'un émouchet, et puis...
Il tirait vanité de son adresse, celui-là. Il dit à ses frères.
« Regardez la petite branche en haut du cerisier. Je vous la casse, net. »
Cette petite branche portait un épouvantail resté là depuis le printemps et qui protégeait de ses bras éperdus les rameaux sans feuilles. Il épaula, le coup parti. Le mannequin dégringola avec de grands gestes comiques et tomba sur une grosse branche inférieure où il demeura rigide, à plat ventre, sa tête en linge coiffée d'un vaste chapeau haute forme et ses jambes en foin ballottant de droite et de gauche au-dessus d'une fontaine qui coulait, près du cerisier, dans une auge de bois. On se mit à rire. Le père applaudit.
« Joli coup, mon garçon. Il commençait à m'agacer, le bonhomme. » Je ne pouvais pas lever les yeux de mon assiette quand je mangeais sans voir cet idiot-là. »
Ils avancèrent encore de quelques pas. Une 20aine de mètres tout au plus les séparaient de la maison quand le père fit une halte brusque et dit
« Hein, qu'y a-t-il ?»
Les frères aussi s'étaient arrêtés et ils écoutaient. L'un d'eux murmura
« Ça vient de la maison, du côté de la lingerie. »
Et un autre balbutia
« On dirait des plaintes. » « Et la mère qui est seule ?»
Soudain, un cri jaillit, terrible. Tous les 5, ils s'élancèrent. Un nouveau cri retentit, puis des appels désespérés.
« Nous voilà ! Nous voilà !»
proféra l'aîné qui courait en avant. Et comme il fallait faire un détour pour gagner la porte, d'un coup de poing, il démolit une fenêtre et il sauta dans la chambre de ses parents. La pièce voisine était la lingerie où la mère Goussot se tenait presque toujours.
« Ah, crebleu !»
dit-il en la voyant sur le parquet, étendu, le visage couvert de sang.
« Papa ! Papa !
Quoi ? Où est-elle ? »
hurla Maître Goussot qui survenait.
« Ah, crebleu ! C'est impossible ! Qu'est-ce qu'on t'a fait, la mère ?»
Elle se raidit, et le bras tendu, bégaya.
« Courez dessus ! Par ici, par ici ! Moi, ce n'est rien ! Des égratignures ! Mais courez donc ! Il a pris l'argent !»
Le père et les fils bondirent.
« Il a pris l'argent !»
vociféra Maître Goussot en se ruant vers la porte que sa femme désignait.
«
Il a pris l'argent. Au voleur !»
Mais un tumulte de voix s'élevait à l'extrémité du couloir par où venaient les trois autres fils.
« Je l'ai vu! Je l'ai vu! Moi aussi! Il a monté l'escalier! Non, le voilà! Il redescend !»
Une galopade effrénée secouait les planchers. Subitement, Maître Goussot, qui arrivait au bout du couloir, aperçut un homme contre la porte du vestibule essayant d'ouvrir. S'il y parvenait, c'était le salut, la fuite par la place de l'église et par les ruelles du village. Surpris dans sa besogne, l'homme, stupidement, perdit la tête, fonça sur Maître Goussot, qu'il fit pirouetter, évita le frère aîné et, poursuivi par les quatre fils, reprit le long couloir, entra dans la chambre des parents, enjamba la fenêtre qu'on avait démolie et disparut. Les fils se jetèrent à sa poursuite au travers des pelouses et des vergers que l'ombre de la nuit envahissait.
« Il est fichu, le bandit !» ricana Maître Goussot. « Pas d'issue possible pour lui. Les murs sont trop hauts. Il est fichu. Ah, la canaille !»
Et comme ces deux valets revenaient du village, il les mit au courant et leur donna des fusils.
« Si ce gredin-là fait seulement mine d'approcher de la maison, crevez-lui la peau, pas de pitié !»
Il leur désigna leur poste, s'assurant que la grande grille réservée aux charrettes était bien fermée, et seulement alors se souvint que sa femme avait peut-être besoin de secours.
« Eh bien, la mère !»« Où est-il ? Est-ce qu'on l'a ?»
demanda-t-elle aussitôt.
« Oui, on est dessus, les gars doivent déjà le tenir !»
Cette nouvelle acheva de la remettre, et un petit coup de rhum lui rendit la force de s'étendre sur son lit avec l'aide de Maître Goussot et de raconter son histoire. Ce ne fut pas long d'ailleurs. Elle venait d'allumer le feu dans la grande salle et elle tricotait paisiblement à la fenêtre de sa chambre en attendant le retour des hommes quand elle crut apercevoir, dans la lingerie voisine, un grincement léger. « Sans doute, se dit-elle, que c'est la chatte que j'aurais laissée là. » Elle s'y rendit en toute sécurité et fut stupéfaite de voir que les deux battants de celle des armoires à linge où l'on cachait l'argent étaient ouverts. Elle s'avança, toujours sans méfiance. Un homme était là, qui se dissimulait, le dos au rayon.
« Mais par où avait-il passé ?» demanda Maître Goussot.
« Par où Par le vestibule, je suppose. On ne ferme jamais la porte.
Et alors, il a sauté sur toi ?
Non, c'est moi qui ai sauté. Lui, il voulait s'enfuir.
Il fallait le laisser.
Comment ? Et l'argent ? Il l'avait donc déjà ? S'il l'avait, je voyais la liasse des billets dans ses mains, la canaille. Je me serais plutôt fait tuer. Ah, on s'est battu, va.
Il n'était donc pas armé ?
Pas plus que moi. On avait ses doigts, ses ongles, ses dents. « Tiens, regarde, il m'a mordu, là. Et je criais, et j'appelais. Seulement, voilà, je suis vieille. Il m'a fallu lâcher. »«
Tu le connais, l'homme ?»«
Je crois bien que c'est le père Traînard. »«
Le cheminot ?»« Eh, parbleu, oui !» s'écria le fermier. « C'est le père Traînard. Il m'avait semblé aussi le reconnaître. » Et puis, depuis 3 jours, il rôde autour de la maison. Ah, le vieux bougre! Il aura senti l'odeur de l'argent! Ah, mon père Traînard, ce qu'on va rigoler! Une raclée numéro 1 d'abord, et puis la justice!
Dites donc, la mère, tu peux bien te lever maintenant. Appelle donc les voisins. Concours à la gendarmerie. Tiens, il y a le gosse du notaire qui a une bicyclette.
« Sacré père Traînard, ce qu'il détalait !»«
Ah, il a encore des jambes pour son âge. Un vrai lapin !»
Il se tenait les côtes, ravi de l'aventure. Que risquait-il ? Aucune puissance au monde ne pouvait faire que le cheminot s'échappât, qu'il ne reçût l'énergique correction qu'il méritait et ne s'en alla sous bonne escorte à la prison de la ville. Le fermier prit un fusil et rejoignit ses deux valets.
Rien de nouveau ?
Non, Maître Goussot, pas encore.
Ça ne va pas tarder, à moins que le diable ne l'enlève par-dessus les murs.
De temps à autre, on entendait les appels que se lançaient au loin les quatre frères. Évidemment, le bonhomme se défendait, plus agile qu'on ne l'eût cru. mais avec des gaillards comme les frères Gousseau. Cependant, l'un d'eux revint assez découragé et il ne cacha pas son opinion. « Pas la peine de s'entêter pour l'instant. Il fait nuit noire. Le bonhomme se sera niché dans quelque trou. On verra ça demain. »«
Demain ? Mais tu es fou, mon garçon !» protesta maître Gousseau.
L'aîné parut à son tour, essoufflé, et fut du même avis que son frère. Pourquoi ne pas attendre au lendemain, puisque le bandit était dans le domaine comme entre les murs d'une prison ?
« Eh bien, j'y vais !» s'écria maître Gousseau. « Qu'on m'allume une lanterne !»
Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.